Ensuite arriva son mari, puis les frères et leurs femmes, puis leurs enfants. Ils dînèrent les fenêtres grandes ouvertes au 9e étage. Un avion vibrait, menaçant, dans la chaleur du ciel. Bien qu'elle eût utilisé moins d'eau que prévu, le dîner était bon. Ses enfants étaient restés éveillés eux aussi et jouaient sur le tapis avec les autres. C'était l'été, inutile de les forcer à dormir. Anne était un peu pâle et riait doucement avec les autres. Après le dîner, enfin, la première brise fraîche entra par les fenêtres. Ils étaient autour de la table, la famille, fatigués par leur journée, heureux d'éviter toute discorde, disposés qu'ils étaient à ne rien critiquer. Ils riaient de tout, d'un cœur bon et humain. Les enfants grandissaient de façon admirable autour d'eux, et comme un papillon, Anne retint l'instant entre ses doigts avant qu'il n'y échappe à jamais. Ensuite, lorsqu'ils furent partis tous et que les enfants furent couchés, elle regarda par la fenêtre, hébétée. La ville était endormie et chaude. Y avait-il une place dans sa vie pour ce que l'aveugle avait déchaîné? Combien d'années lui faudrait-il pour vieillir de nouveau? Un seul mouvement et elle marcherait sur l'un des enfants. Mais avec une méchanceté d'amante, elle paraissait accepter que de la feur sorte le moustique, que des fleurs flottent sous l'obscurité du lac. L'aveugle était un fruit au milieu du jardin botanique. Si c'était une explosion de gaz, il y aurait déjà le feu dans toute la maison, pensa-t-elle en courant la cuisine. Elle se trouva nez à nez avec son mari devant le café renversé. « Qu'est-ce que c'est ? » cria-t-elle toute tremblante. Il prit peur devant l'affolement de sa femme et soudain il rit en comprenant. « Ce n'est rien, dit-il, je suis un maladroit. » Il avait l'air fatigué, les yeux cernés. Mais remarquant l'étrange expression d'Anne, il l'observa avec plus d'attention. Ensuite, il l'attira à lui dans une caresse rapide. « Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, jamais, » dit-elle. « Même pas une explosion en faisant marcher la cuisinière, » répondit-il en riant. Elle resta sans force dans ses bras. Cet après-midi, une chose tranquille avait crevé, et dans toute la maison, il y avait une note humoristique. « C'est l'heure de dormir, » dit-il, « il est tard. » Avec un geste qui ne lui était pas habituel, mais qui parut naturel, il prit sa femme par la main, l'emmenant avec lui sans regarder en arrière, l'éloignant du danger de vivre. C'en était fini du vertige de bonté. Et si elle avait traversé l'amour et son enfer, maintenant elle se coiffait devant la glace, sans aucun monde dans le cœur pour un moment. Avant de se coucher, comme si elle éteignait une bougie, elle souffla la petite flamme du jour.
lagoas arredores, subindo ladeira acima, samba levada ardente. Sempre levando alegria, sempre levando amizade, sempre levando animação, swing legal abalando.
Fernanda de Abreu, qui chantait, jeune chanteuse brésilienne, qui chantait cette dernière chanson. Et juste avant, c'était Margaret Menezes qui, elle, chantait Negra Melodia, de toute nouvelle chanteuse brésilienne, dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Comme je vous le disais au tout début de cette émission, Clarice Lispector n'a pas écrit que des romans, elle a aussi écrit des nouvelles. Cette écrivaine brésilienne, en effet, s'est à un moment donné attachée à écrire des petits textes, mais vous allez le voir, dans des circonstances bien particulières. C'est elle qui nous l'explique dans ce recueil de nouvelles qui a pour titre « La Belle et la Bête » suivi de « Passion des corps ». Et ce sera une des nouvelles de « Passion des corps » que je vous lirai tout de suite, mais tout de suite la parole à Clarice Lispector. Le poète Alvaro Pacheco, mon directeur de collection chez Artenova, m'avait passé commande de 3 histoires qui, spécifiait-il, devaient être des histoires réelles. Je disposais des faits, seul me faisait défaut l'imagination. Or, le thème était fort périlleux, je lui répondis que j'étais incapable d'écrire sur commande. Mais comme il me parlait au téléphone, je sentis naître en moi l'inspiration. Cette conversation téléphonique eut lieu un vendredi. Je m'attelais à la tâche le samedi et le dimanche matin, mes 3 histoires étaient finies. Miss Algrave, Le Corps, Chemin de Croix. J'en étais la première étonnée. Toutes les histoires que forme ce livre sont dures et celle qui en aura le plus souffert, c'est moi. La réalité m'a choquée. Si ces histoires renferment des obscénités, ce n'est pas ma faute. Inutile de dire qu'elles ne me sont pas arrivées personnellement, non plus qu'aux miens ou à mes amis. Alors comment en ai-je eu connaissance? J'en ai eu connaissance. Les artistes ont connaissance des choses. Je tiens seulement à préciser que je ne les ai pas écrites contre argent comptant, mais de mon plein gré. On me jettera la pierre, peu importe. Je n'aime pas les blagues, je suis une femme sérieuse, sans compter que j'ai relevé là un défi. Aujourd'hui, C'est le 12 mai, fête des mères, quand je prends la plume. Pas question d'écrire en ce jour des histoires que je ne tiendrai pas à laisser lire à mes fils tant que j'en aurai honte. J'ai donc dit à mon éditeur de collection que je ne les publierai que sous un pseudonyme. J'avais même déjà choisi un nom assez sympathique, Claudio Lemos. Mais lui a refusé. Il m'a dit que je devais être libre d'écrire ce que je voulais. Alors j'ai cédé. Que pouvais-je faire, sinon être ma propre victime ? Mais je prie Dieu que personne ne me commande plus rien, car il me semble bien être capable d'obéir tout en me révoltant, moi qui ne suis point libérée. Quelqu'un qui a lu mes nouvelles a déclaré que c'était loin d'être de la littérature, c'était de l'ordure. J'en conviens, mais il y a un temps pour tout. Il y a donc un temps pour l'ordure. Ce livre est assez triste, car tel un enfant naïf, j'ai découvert la chiennerie du monde. Ce recueil compte 13 histoires, il aurait pu en y avoir 14, mais je m'y refuse, car ce serait là trahir la confiance d'un homme simple qui m'a raconté sa vie. Il est charretier dans une exploitation agricole et il m'a dit « Pour éviter de verser du sang, j'ai dû me séparer de ma femme qui s'est dévoyée et a dévoyé ma fille de 16 ans. Il a un fils de 18 ans qui ne veut même plus entendre prononcer le nom de sa mère. » Et voilà comment sont les choses. C'est en ce même dimanche de malheur que furent écrites les nouvelles « L'homme qui fit son apparition » et « Pour le moment ». Aujourd'hui, lundi 13 mai, anniversaire de la libération des esclaves ici au Brésil et donc aussi de la mienne, j'ai écrit « Danube bleu », un parler enfantin et « Place Mawa ». « Bruit de pas » fut écrit plus tard, à la campagne, au cœur de la nuit obscure. J'ai déjà tenté de regarder de près le visage de quelqu'un, d'une caissière de cinéma par exemple, afin de pénétrer le secret de son existence. Inutile. L'autre est énigme. Et ses yeux sont des yeux de statue. Aveugle. Miss Algrave. Elle redoutait l'opprobre, c'est pourquoi elle n'en raconta rien à personne. Si elle avait raconté ça, personne ne l'eût cru, car personne ne croit en la réalité. Cependant, elle, qui vivait à Londres, où les fantômes hantent les ruelles obscures, elle savait la vérité. Sa journée de vendredi n'avait pas différé des autres, c'était seulement dans la nuit de samedi que ça lui arriva. Mais le vendredi, elle vaqua comme d'ordinaire à ses affaires. Toutefois, un horrible souvenir la tourmentait. Quand elle était petite, vers 7 ans, elle jouait au papa et à la maman avec son cousin Jack, dans le grand lit de leur mémé. Et ils faisaient tout pour avoir des enfants, sans succès. Elle n'avait jamais revu Jack et ne désirait pas le revoir. Si elle était coupable, lui l'était aussi. Célibataire, bien entendu. Et vierge, bien entendu. Elle vivait seule, sous des combles, à Soho. Ce jour-là, elle avait fait des provisions de légumes et de fruits, car elle estimait que c'était péché de manger de la viande. Quand en passant par Piccadilly Circus, elle voyait des femmes qui attendaient les hommes dans des recoins, elle en avait la nausée. Et pour de l'argent, par-dessus le marché, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. Et sous cette statue d'Eros dressée là, indécente, après déjeuner, elle alla au bureau. C'était une excellente dactylo. Son chef de service n'avait jamais un regard pour elle et la traitait par bonheur, avec respect, l'appelant toujours Miss Algrave. Elle se prénommait Ruth. Elle était d'origine irlandaise et rousse, avec les cheveux roulés sur la nuque en un sévère chignon. Elle avait force taches de rousseur et une peau si claire, si fine, qu'on eût dit de la soie blanche, et des cils roux également. C'était une belle femme. Elle était très fière de son physique. Elle était grande et bien en chair, mais nul n'avait jamais touché ses seins. Elle avait l'habitude de déjeuner dans un restaurant bon marché, à Soho même. Elle prenait des macaronis en sauce tomate et jamais elle n'avait mis les pieds dans un pub. Si elle passait devant l'un, la seule odeur de l'alcool lui donnait la nausée et l'humanité l'offusquait. Elle entretenait des géraniums rouges qui, le printemps venu, étaient une merveille. Son père avait été pasteur protestant et sa mère vivait encore à Dublin chez son fils marié. Son frère avait épousé une vraie garce du nom de Tootsie. De temps à autre, Miss Hargrave adressait une lettre de protestation au Times qui la publiait. C'est avec un vif plaisir qu'elle voyait son nom imprimé, Sincerely Ruth Hargrave. Elle ne prenait qu'un bain par semaine et sans ôter sa culotte ni son soutien-gorge afin de ne point se voir nue. C'est un samedi que ça lui arriva. Elle ne devait donc point aller travailler. Elle se réveilla de bon matin et prit un thé au jasmin. Puis elle pria, puis elle sortit prendre l'air. Non loin de l'hôtel Savoy, elle faillit se faire écraser. À supposer que ce fût arrivé et qu'elle en fût morte, c'eût été terrible, car rien ne lui serait arrivé cette nuit-là. Elle alla à la répétition de sa chorale. Elle avait un timbre harmonieux. Effectivement, c'était une privilégiée. Et puis, elle alla déjeuner et s'offrit des crevettes. C'était si bon qu'il lui sembla que c'était un péché. Elle se dirigea ensuite vers Hyde Park, où elle s'assit sur l'herbe. Elle avait emporté une Bible pour lire. Mais, Dieu lui pardonne, le soleil était si ardent, si bon, si chaud, qu'elle n'en lut pas une ligne, se contentant de rester assise par terre, sans trouver le courage de s'allonger. Elle s'efforça de ne pas regarder les couples qui s'embrassaient et se câlinaient sans la moindre vergogne. Puis elle rentra chez elle, arrosa ses bégonias et prit un bain. Ensuite, elle alla rendre visite à Mrs. Cabot, qui avait 97 ans. Elle lui apporta un morceau de gâteau raisin sec et elles prirent le thé. Miss Hargrave se sentait très heureuse, en dépit de tout. Oui, en dépit de tout. Vers 7 heures, elle rentra chez elle. Elle n'avait rien à faire, alors elle se tricota un pull pour l'hiver, d'une superbe couleur, jaune comme le soleil. Avant de dormir, elle reprit du thé au jasmin avec des biscuits. Elle se brossa les dents, se mit en chemise de nuit et se coucha. Ses rideaux de tulle, elle les avait fait elle-même y accrocher. C'était en mai. Les rideaux se balançaient sous la brise de cette nuit singulière. Pourquoi singulière? Elle l'ignorait. Elle parcourut vaguement le journal du jour et éteignit sa lampe de chevet. Par la fenêtre ouverte, elle voyait le clair de lune. C'était une nuit de lune pleine. Elle poussa fort ce soupir. Oh, car il était bien difficile de vivre seule. Sa solitude l'écrasait. Il était bien difficile de n'avoir personne à qui parler. Elle ne connaissait personne qui fût plus solitaire qu'elle-même. Même Mrs. Cabot avait un chat. Ruth Hargrave n'avait point d'animal domestique, toute bête étant trop bestiale à son goût. Elle n'avait pas davantage la télévision, et cela pour deux bonnes raisons. Elle n'avait pas assez d'argent et se refusait à voir les scènes immorales qu'on y montrait. Une fois chez Mrs. Cabot, elle avait vu à la télévision un homme embrasser une femme sur la bouche, sans parler du danger de transmission des microbes. Oh, si elle avait pu, elle aurait envoyé tous les jours une lettre de protestation au Times. Mais apparemment, toute protestation était inutile. L'impudeur triomphait partout. Elle avait même déjà vu un chien avec une chienne. Elle en avait été toute retournée. Mais si telle était la volonté de Dieu, ainsi soit-elle. Seulement, jamais personne ne la toucherait, se dit-elle. Elle se confinait donc dans sa solitude. Jusqu'aux enfants qui étaient immoraux, elle les évitait donc et elle implorait déjà, elle déplorait d'être le fruit des débordements de son père et de sa mère. Elle avait grande honte qu'elle n'ait eu si peu. Comme elle laissait du riz cru sur sa fenêtre, elle avait parfois la visite de pigeons. Ceux-ci pénétraient à l'occasion dans sa chambre. C'étaient les émissaires du Seigneur, si innocents, ils roucoulaient. Mais ces régoulements étaient en partie immoraux, quoique moins que l'apparition d'une femme quasi-nue à la télévision. Dès maintenant, sans faute, elle enverrait une lettre dénonçant les déplorables mœurs de cette maudite ville de Londres. Un jour, elle avait vu une bande de dépravés patientant devant une pharmacie pour avoir droit à leur piqûre. Comment la reine pouvait-elle permettre de telles choses? Mystère. Elle allait également envoyer une lettre dénonçant la reine même. Elle écrivait correctement, sans la moindre faute, et tapait ses lettres sur la machine de son chef, sitôt qu'elle avait un moment. Mr. Clarkson, son chef de service, la félicitait toujours de celles publiées. Elle lui avait même déclaré qu'elle pourrait un jour devenir écrivain. Elle en était très fière, et elle en avait vivement remercié. Elle était donc au lit avec sa solitude, en dépit de tout. Et c'est alors que ça lui arriva. sentit pénétrer dans la pièce par la fenêtre quelque chose qui n'était certes pas un pigeon. Elle prit peur. Elle dit à voix haute « Qui est là ?» Et la réponse vint sous forme de brise. « Je suis moi. »« Qui êtes-vous » s'enquit-elle tremblante. « Je viens de Saturne pour vous aimer. » « Mais je ne vois personne. L'important, c'est que vous me sentiez. » Elle le sentit effectivement. Un frisson électronique la parcourut. « Comment vous appelez-vous » s'enquit-elle, effrayée. « Peu importe. Mais je tiens à vous appeler par votre nom. Appelez-moi Ixtlan. » Il communiquait en sanskrit. Aussi froid que celui d'un lézard, son contact lui donnait des frissons. Ixtlan était couronné de serpents entrelacés, apprivoisés sous menace de mort. Il était drapé d'une étoile, d'une étoffe du violet de la passion, du mauvais or et du pourpre coagulé. Il lui dit « Déshabille-toi ». Elle ôta sa chemise de nuit. Dans la chambre, la lune était énorme. Ixtlan était pâle et petit. Il s'allongea à ses côtés sur le lit de fer et passa ses mains sur ses seins. Rose, noire. Jamais elle n'avait éprouvé ce qu'elle éprouva alors. C'était bon. Elle redoutait d'en voir la fin. Voilà qu'elle était comme une estropiée qui aurait jeté sa canne en l'air. Elle se mit à soupirer et dit à Ixtlan « Je t'aime, mon amour, mon grand amour. » Et effectivement, cela lui arriva. Elle eût voulu n'en jamais voir la fin. Mon Dieu, quel délice! Et elle en voulait encore, encore et encore. Elle songea. Accepte-moi, ou plutôt, voilà que je m'offre à toi. C'était le règne de l'ici et maintenant. Elle lui demanda, quand reviendras-tu? Ixtlan lui répondit, avec la pleine lune. Mais je ne puis attendre aussi longtemps. C'est comme ça, dit-il assez froidement. Je vais avoir un bébé? Non. Mais sans toi, je mourrai de tristesse. Comment vais-je faire? Vis pour toi-même. Il se leva, lui posa sur le front un chaste baiser et sortit par la fenêtre.